Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et 13 ans après sa première parution, c'est ainsi que les hommes vivent. La fresque historique de Pierre Pelot est rééditée. Bernard Lehu a joint cet écrivain hors du commun qui, à 71 ans, vit dans son village vosgien, loin de la scène médiatique. Des idées de sortie pour ceux qui sont de passage dans la capitale en cette fin d'année. La comédie musicale 42nd Street au Théâtre du Châtelet est un spectacle grandiose et un antidote à la morosité, nous dira Stephen Bellery. Et puis pour les amateurs de magie, il faut voir The Illusionist aux Folies Bergères. À la télé ce soir, la série américaine Murder revient en deuxième saison sur M6 à 21h. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque. Et puis nous découvrirons une interprétation de la symphonie La Reine de France de Joseph Haydn par un nouvel orchestre français que Charlotte Latour nous présentera.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais avant toute chose, Anthony Martin, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Tambour. On connaît depuis ce matin le nom de l'artiste qui remporte le trophée de l'album RTL de l'année 2016.
Oui, le trophée revient à Renaud. Vous avez été très nombreux à voter pour Renaud et l'album qui porte son nom, sorti en avril dernier, déjà écoulé à plus de 600 000 exemplaires. Renaud qui concourait aux côtés de Jane, Céline Dion, Johnny Hallyday et Claudio Capeo est donc le 11e lauréat de notre prix créé en 2006. Mmh. Renaud est en tournée, il chante ce soir à Montbéliard. Je l'ai joint et je lui ai appris la nouvelle.
Magnifique. Merci aux auditeurs. Ça me touche beaucoup. Qui aurait cru, qui aurait misé un centime sur moi il y a un peu plus d'un an, quand j'étais en studio à ICP à Bruxelles et que je partageais mon temps entre le studio et la clinique pour donner un tox.
C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.
J'avais du mal à chanter au départ, et qu'après être soigné, guéri, remis sur pied, ressuscité, j'ai réussi à chanter, à faire un album qui apparemment a touché les gens, même si c'est à mes yeux pas mon meilleur album, c'est délirant. Ça aide à survivre. Vraiment, c'est une belle année. À bientôt sur la télé.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout.
L'album de Renaud est donc l'album RTL de l'année 2016. Renaud nous disait à l'instant à bientôt sur RTL. Il viendra en effet très prochainement fêter ça dans le grand studio de la rue Bayard, une émission qu'on découvrira le jour de Noël, le 25 décembre de 19h à 20h, en partenariat avec le programme de TF1 50 Minutes Inside.
Bravo Renaud, merci à tous d'avoir été si nombreux à voter via notre site RTL.fr à chaque étape de ce prix de l'album RTL de l'année. Et en effet, ce sera un beau cadeau de Noël d'avoir Renaud avec nous pour ce 25 décembre. Merci beaucoup Anthony Martin. Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous nous présentez un écrivain hors du commun, hein, Pierre Pelot, à l'écart total de la scène médiatique. Ce Vosgien de 71 ans a produit l'œuvre la plus prolifique des 50 dernières années.
Un ogre de l'écriture, l'homme aux 200 livres. Pierre Pelot s'est attaqué à tous les genres, les ouvrages pour enfants, la science-fiction, le western, le polar, le roman classique, le roman historique et même préhistorique, en collaboration avec le paléontologue Yves Coppens. Bref, c'est un cas, Pierre Pelot, c'est un cas unique dans le monde de l'édition française.
Et l'un des livres majeurs de Pierre Pelot, réédité par les presses de la Cité.
C'est ainsi que les hommes vivent, hein, c'est son titre. 1200 pages d'une fresque historique, justement monumentale, où se croisent à 300 ans de distance deux destins. Celui de Dola, fils d'une paysanne, brûlé pour sorcellerie pendant la guerre de 30 ans en Lorraine, et celui de Lazare, un journaliste revenu dans le village de son enfance après un accident qui lui a fait perdre la mémoire.
Alors Jean-Christophe Ruffin est un fervent lecteur de Pierre Pelot. Oui. Et pour cette réédition de « C'est ainsi que les hommes vivent », il signe une préface admirative.
Et l'académicien souligne une autre particularité de cet écrivain décidément hors norme. Pierre Pelot n'a jamais quitté son village natal des Vosges, Saint-Maurice-sur-Moselle. Je me suis rendu d'ailleurs il y a quelques années pour aller rencontrer là-bas, c'est un peu le bout du monde. Hein. Alors comment, s'interroge Jean-Christophe Ruffin, un homme d'un seul lieu a-t-il pu créer des mondes aussi multiples, une énigme qui laisse perplexe l'intéressé lui-même?
Je ne sais pas, je peux simplement dire ce que je répète depuis longtemps, parce que je crois que c'est vrai, que les histoires existent déjà. Il y a des Indiens Cris de Canada et de Nord-Amérique qui pensent que les histoires sont des êtres vivants qui flottent dans le ciel et qu'il suffit de les attraper pour les raconter. Longtemps, je me suis dit que c'était joli comme pensée, mais je me suis rendu compte aussi que c'était probablement vrai. Ils ajoutent en plus, mais où vont les histoires qui ne sont pas racontées? Et je trouve ça magnifique, quoi. C'est ça, les histoires, elles existent. Et puis, de temps à autre, j'ai la chance que certaines me choisissent pour que je les raconte.
Un poète, en plus, Pierre Pelot. Mais alors, son exceptionnelle puissance d'écriture a chancelé, il y a 4 ans, à la mort brutale de son fils.
En fait, les sales coups de ce genre-là, bah, ça cicatrise jamais, hein, faut pas y croire. Cet homme-là qui est parti un peu brutalement, on meurt un peu avec aussi, quoi. Donc, j'étais plus très vivant pendant un moment, j'en avais marre. Quand on se demande chaque matin à quoi bon, c'est un peu mauvais signe. Donc, je pensais que je ne pouvais plus écrire un mot et que j'avais surtout plus envie du tout. Et puis, c'est revenu à mon corps défendant. Et c'est non seulement c'est revenu, mais c'est revenu en force. Et là, je me retrouve encore face à des histoires qu'il va falloir bien raconter, d'ailleurs, mais qui sont, je me demande pourquoi, qui sont encore énormes et qui vont me demander beaucoup de force.
Émouvant ce que vous dit Pierre Pelot, c'est une étonnante personnalité.
Ah oui, tout à fait. Mais alors, ce n'est pas fini. J'ajoute qu'il a construit de ses propres mains la maison où il vit dans son village vosgien et où, ces jours-ci, vous allez l'entendre, il est très occupé.
Je scie du bois. Je suis en train de refaire la maison en question, à l'intérieur.
Ah oui ?
Donc, je fais des meubles, je fais des portes, je fais des meubles. Je suis un fanatique de la palette de bois. Donc, avec des palettes, je fais des meubles. Donc, je vais refaire toute ma maison, donc ça va faire du boulot aussi, ça. J'aime beaucoup le bois. C'est un truc que j'aime bien travailler le bois. La pierre aussi, mais je préfère le bois. Mon père était menuisier. Et je pense que j'ai gardé peut-être quelque chose, une envie et un bonheur de travailler le bois. Parce que rien que de le voir, lui, travailler ça, ça me plaisait bien déjà, tout petit. Donc, ça doit passer par là.
Voilà, Pierre Pelot et son double établi, hein, celui du menuisier et celui de l'écrivain. Le géant des Vosges, republié aux presses de la cité, c'est ainsi que les hommes vivent, préfacé par Jean-Christophe Ruffin. Entretien complet et passionnant de Pierre Pelot à retrouver sur RTL.fr.
Il est vosgien, il aime le bois.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvin.
Ouh là là, médiamétrie, les scores d'audience, ça vient d'arriver. Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, audience à peu près, comme d'habitude pour Esprit Criminel sur TF1, en tête avec 5 200 000 téléspectateurs environ et 21% du public sur la une. En deuxième position, inamovible, le meilleur pâtissier sur M6. La demi-finale a été suivie par 3 600 000 téléspectateurs. C'est même légèrement à la hausse, 17% du public sur M6.
Ils ont fait des puits d'amour.
Eh bien voilà, exactement. Et ça a plu. Et alors en troisième position, chef, mais définitivement, ça, là en revanche, ça ne décolle pas. 2 235 000 téléspectateurs et moins de 10% du public sur la 2. Voilà, c'est jugé trop esthétisant par le public. Côté TNT, c'est Joséphine Ange-Gardien sur NT1 qui est en tête, 790 000 téléspectateurs. Et en revanche, manifestement, les Français ont tourné la page de la primaire, puisque Instinct Primaire sur C8 a été suivi par moins de 400 000 personnes.
Et on vous retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée. Alors, on va vous donner maintenant des idées de sortie. Hein. Peut-être que vous passerez par la capitale dans les prochains jours. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
On commence avec 42nd Street, la comédie musicale qui est à l'affiche du théâtre du Châtelet depuis quelques jours.
Oui, 42nd Street, la 42e rue, celle des théâtres à New York, en plein quartier de Broadway. Nous sommes en 1933. La crise de 29 n'est pas oubliée et pourtant... Le spectacle continue, on est en pleine audition, le rideau ne s'ouvre que d'un tiers, on ne voit qu'une dizaine de jambes en ligne, la fameuse chorus line. Julian Marsh, metteur en scène qui n'a plus la cote, veut se relancer avec une nouvelle revue. Il a l'idée de recruter Dorothy Brock, une vieille vedette un peu oubliée, un peu rouillée aussi. Il va s'en mordre les doigts. Second Street est un backstage musical, une plongée dans les coulisses. On suit la fabrication du spectacle Pretty Lady. Ego surdimensionné, travail acharné, paillettes et dialogues ciselés, rythme 42nd Street. 30 danseurs et chanteurs sur scène, c'est pétillant, exaltant, émouvant. Le tout est porté par la musique d'Harry Warren. Le livret, l'histoire est assez simple, les chansons ne sont ici que des prétextes pour danser encore et encore.
Alors évidemment, tout ne se passe pas comme prévu hein, dans le spectacle.
Et non, Dorothy se casse la cheville, la jeune débutante Peggy doit la remplacer au pied levé. Après 12 ans à la tête du théâtre du Châtelet, le directeur Jean-Luc Chopelin tire sa révérence avec 42nd Street.
C'est d'abord un spectacle festival, c'est un feu d'artifice, c'est une grande revue, c'est un hommage à la danse, c'est un hommage aux claquettes, aux chorégraphies, aux chants, aux musiques de Warren absolument magnifiques. Que du bonheur, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est un spectacle qui vous rend heureux, joyeux, qui vous rend léger. C'est une série de numéros. L'histoire est un peu secondaire par rapport à la démonstration éblouissante, si vous voulez, des grands numéros. Voilà, je pense qu'il fallait donner ça à Paris.
Ça claque. 42nd Street est un antidote à la morosité, une ode au spectacle vivant à l'American Dream. Les plus, décors et costumes grandioses. Le décor notamment de Manhattan, la reconstruction des buildings à la toute fin est impressionnante. Les tableaux de claquettes sont époustouflants évidemment. Le casting est bluffant comme d'habitude au Châtelet. Les moins, l'histoire, le livret qui manque d'éclat. 42nd Street est au Théâtre du Châtelet jusqu'au 8 janvier en anglais surtitré comme d'habitude. C'est le dernier grand spectacle de l'institution parisienne avant sa fermeture pour 30 mois de travaux. Donc ce sera un nouveau directeur après. On ne sait pas s'il y aura autant d'aussi jolies comédies musicales au Châtelet. Les prix de 15 à 109 euros. Et pour l'anecdote, Gower Champion, le chorégraphe et metteur en scène original, était décédé le jour de la première officielle en août 1980. Ça avait apporté à la légende de 42nd Street.
Incroyable histoire. Autre idée de sortie, The Illusionists sont à l'affiche des Folies Bergères jusqu'au 11 décembre prochain. C'est un collectif en fait de magiciens.
Oui, 7 prestidigitateurs, tous viennent de pays différents et ont leur spécialité. Le spectacle est un peu bancal, mais c'est un bon condensé de ce que l'on voit de mieux en magie aujourd'hui. Le coréen Yu Ho-jin cache des centaines de cartes dans ses mains, les rend toutes blanches en un clin d'œil. Le jeune Enzo, 26 ans, vu dans la France, a un incroyable talent, fait apparaître un hélicoptère sur scène en 2 secondes. Luis de Matos, le portugais, remplit un aquarium de poissons alors qu'il était vide l'instant d'avant. Il y a aussi Crendel, menotté dans un bassin qui réussit à s'échapper. Ils sont tous dans The Illusionist. C'est aux Folies Bergères jusqu'au 11 décembre, les prix de 29 à 95 euros. Les plus, la variété des numéros. Les moins, une mise en scène un peu ringarde avec danseurs et demoiselles en petite tenue.
Merci beaucoup, Stephen Bellery. Ça ne vous a pas touché, ces histoires de... Non, si, j'ai vu que ça volait. Aquarium de poissons alors qu'il était vide un instant avant. J'ai vu que ça créait un tout petit peu de stupeur autour de nous. Vous arrêtez de rire, vous?
C'est bien.
Vous n'aimez pas les
poissons.
Ah bon?
C'est l'hélico qui me bluffe.
Alors, comme on passe à nos programmes télévisés de ce soir, comme Stéphane Carpentier à 6h20, je constate qu'il y a beaucoup de polars à 20h50 sur toutes nos chaînes, à commencer bien sûr par Profilage sur TF1 et le fameux procès O.J. Simpson sur Canal+.
Oui, deux polars.
Je suis sevré, ça fait, j'attends les nouveaux épisodes depuis 3 jours là.
D'O.J. Simpson. Vous n'allez pas être déçus. Donc deux polars à forte teneur en audience, comme on dit. Profilage sur TF1, c'est toujours la série policière française qui marche actuellement le mieux, ça se profile bien. Et sur Canal+, le procès de l'ex-star du football américain accusé, on le sait, d'avoir tué son ex-femme, a connu un démarrage foudroyant, si on ose dire, vu le thème. Ce soir, si vous êtes accro, donc, à cette reconstitution, eh ben, vous le serez encore plus. Parce que l'épisode du jour, c'est celui où les avocats de la star trouvent une faille dans le dossier policier. C'est un secret défense, enfin de la défense. Or, dans Canal+, 21h, c'est absolument prodigieux.
C'est produit par John Travolta.
Oui, oui. Absolument.
C'est extraordinaire.
Formidable en avocat qui a impérativement besoin des médias pour s'épanouir. C'est formidable. Il joue Shapiro.
Exactement. Qui fut aussi l'avocat de...
Shapiro, ça me dit quelque chose.
Michael Jackson, entre autres.
Arzo, oui.
Mais bien sûr. C'est Stéphane Boutsock en régie qui me le hurler dans le casque. Je suis devenu sourd. Et ce soir, la série Murder revient sur M6.
Oui, même si l'audience de la saison 1 avait chuté après son passage en deuxième partie de soirée, une troisième saison a été commandée et commencée aux États-Unis malgré, là aussi, un sérieux dévissage d'audience. Pourtant, le vrai titre, c'est en fait How to get away with murder, c'est-à-dire comment échapper à toute sanction après un meurtre. Et c'est la mission que s'est fixée Annalise Keating, prof de droit et avocate renommée, défend les indéfendables avec certains de ses élèves les plus doués. Une affaire de meurtre l'impliquant personnellement, on va pas en dire plus.
C'est compliqué.
C'est peu de le dire. À densifier, voire compliquer effectivement compliqué aussi, la saison 1. Oui. Et au début de cette saison 2, elle doit faire face à une petite fronde qui se sent et se ressent même en cours.
Maintenant, que se passe-t-il si votre client est le mari ou la femme de la victime et que vous savez qu'il ou elle est coupable? Quelle serait votre stratégie de défense? Monsieur Gibbons? Monsieur Gibbons?
Je passe.
Je ne suis pas le professeur Hahn. Personne ne passe dans mon cours.
Je viens de le faire.
Debout.
50 billets qui se fait dessus avant qu'elle ait fini.
Vous arrivez en retard à l'un de mes cours, et ensuite vous affichez ouvertement que vous ne l'avez pas préparé. Quoi qu'il en soit, nous pouvons quand même utiliser cette opportunité pour faire travailler vos méninges.
Alors voilà, réfléchissez. La suite sur M6. Moi, je trouve cette série excellente et excitante, mais aussi déroutante, voire exaspérante à cause des incessants retours sur le passé et des non moins incessantes projections sur l'avenir. Ça fait 3 séries en une. C'est trop. Et à la longue, franchement, la juxtaposition de tout, ça fatigue et ça casse le rythme. C'est pour ça que ça marche nettement moins bien. Non, pour moi, en fait, le feuilleton exemplaire qui évite tout flashback et tout chichi de réalisation, c'est Unforgotten sur la 3. Un modèle du genre. C'est l'enquête, vous savez, d'une femme flic pour retrouver le ou les meurtriers d'un jeune garçon assassiné 23 ans plus tôt qui n'a, si j'ose dire, pas fait de vieux os puisque l'on retrouve son squelette en détruisant un vieil immeuble. C'est humainement formidablement riche. Même les salauds ont des circonstances atténuantes quand le puzzle est reconstitué. Oui. Et on aime aussi les rapports entre la fliquette et son second, un père de famille d'origine indienne qui raconte très volontiers ses déboires avec ses filles ados.
Gemma a une fois encore envoyé des photos de ses fesses à un copain de classe.
Oh, sympa.
J'ai mis deux heures pour mettre la main sur son téléphone et le confisquer.
Ouais, il y a fort à parier que c'est même pas un copain de classe. Mais probablement un colonel en retraite d'East Grinstead qui se fait passer pour lui.
Parfois t'as vraiment le mot juste, hein, pour me casser encore plus le moral.
Je dis ça comme ça. Hein. Voilà.
Donc, France 3, Unforgotten, les 3 derniers épisodes d'une saison de 6. Vous savez, maintenant, on les brade en faisant des paquets de 3. C'est vraiment formidable. Ça méritait une soirée de plus, c'est-à-dire 2-2-2, comme normal.
Bah écoutez, vous avez toujours raison, hein, vous le savez bien.
Mais non, mais je regarde, donc moi, je vois bien, c'est difficile de tenir 3 épisodes super denses quand on rentre fatigué de son travail. Je sais bien qu'il y a le replay, mais...
Moi, je tiens, mais bon, ça dépend de la qualité de la série.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h21, bonjour Charlotte Latour.
Bonjour.
Une jolie histoire dans le monde de la musique classique ce matin avec vous. Le violoniste et chef d'orchestre Julien Chauvin a refondé un orchestre qui existait au XVIIIe siècle, mais l'opération n'a évidemment pas été si simple que ça. Hein.
Alors l'idée, c'était de recréer le concert de la loge olympique, un ensemble incontournable à la fin du XVIIIe siècle à Paris, sauf qu'en 2015, le comité olympique français est venu frapper à la porte de Julien Chauvin pour lui dire que olympique, eh bien, c'est un terme auquel il ne faut pas toucher. Ah, et oui, s'en est suivi une bataille d'avocats. Au final, le musicien a été accusé d'utiliser la notoriété des JO, ce qui pouvait soi-disant créer de la confusion pour les sponsors. À l'issue de ces démêlés, les musiciens ont raccourci le nom de l'orchestre. Il s'appelle désormais le concert de la loge.
Ah bah voilà.
Tout court. L'affaire a été un petit peu difficile à digérer, mais ça y est. Et avec la sortie du premier album, on peut enfin passer à autre chose, à la musique, la vraie. Voilà une symphonie de l'Autrichien Joseph Haydn, appelée La Reine de France, dédiée à Marie-Antoinette. Elle fut donnée pour la première fois en 1787 par le concert de la loge olympique. Julien Chauvin nous raconte l'histoire de cet orchestre.
1783, des musiciens décident de créer ce qui va être le plus grand orchestre de la fin du XVIIIe siècle, le concert de la loge olympique, qui réunit 65 musiciens. Donc c'est un effectif absolument colossal pour l'époque. L'orchestre donne des concerts au Palais des Tuileries. Il est soutenu par Marie-Antoinette. L'orchestre passe des commandes extrêmement prestigieuses, notamment à Joseph Haydn, considéré comme le plus grand compositeur européen.
Il faut rappeler, Charlotte, qu'à la fin du XVIIIe siècle, Haydn était incontournable. Il était joué dans presque absolument tous les concerts parisiens.
Il faut s'imaginer qu'en ce siècle des Lumières, la France était très active culturellement. On pouvait écouter des créations musicales tous les soirs. Et Haydn, comme le concert de la loge olympique, était largement soutenu par Marie-Antoinette.
Marie-Antoinette a fait énormément pour la musique. Louis XVI était peu musicophile. Et Marie-Antoinette, finalement, en faisant venir des artistes de Vienne et des musiciens d'Italie, a provoqué véritablement un renouveau de la musique quelques années avant la Révolution.
Il y a des ruptures de rythme chez Haydn. On passe d'un moment de romance très doux à un passage tempétueux. La légende dit que Marie-Antoinette jouait cette musique dans la prison de la conciergerie puisqu'elle avait un petit clavier dans sa cellule jusque dans ses derniers moments avant l'échafaud. Le concert de la loge, dans sa version 2015, compte 27 musiciens. Julien Chauvin, premier violon et chef de l'ensemble, entend interpréter à ses côtés le même répertoire qu'à l'époque sur instruments anciens. Cet album, c'est donc ce qu'on entendait à Paris avant la Révolution. Il s'agit du premier opus des symphonies symphonie écrite à Paris par Haydn. D'autres sont à suivre. Haydn et la reine, c'est paru chez Aparté.
Merci beaucoup Charlotte Latour.
C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.
C'était votre chanson préférée sur l'album, non ?
Oui, Les mots, écrite par Renan Luce, le gendre de Renaud. Voilà, c'est la chanson préférée de Renaud. Hein.
En tout cas, on avait passé un moment très émouvant et très sympa avec lui à la sortie de l'album.
Vrai,
et vous qui nous écoutez, ben, vous l'avez désigné album RTL de l'année finalement. C'est une histoire qui se boucle et c'est très bien comme ça. Demain, invité exceptionnel puisque nous recevrons Omar Sy pour la sortie de son dernier film. Demain, tout commence. Et nous, on va retrouver tout de suite, après avoir remercié l'équipe, notre ami Julien Courbet. Julien, ce soir, on a rendez-vous sur C8 avec vous. C'est le grand retour.
Ah, c'est le retour de Faut pas abuser, vous savez. Et vous êtes, je vous rappelle, à l'origine de cette émission.
J'aime bien que vous vous en souveniez.
Oui. Le principe, c'est d'avoir des vedettes, des stars autour de moi qui règlent les problèmes avec moi. Et on en a deux. Je vous en raconter un très rapidement. Oui, je vais le dire vite. Ne me mettez pas la pression. Ça va quand même. Je prends sur mon temps à moi, vous inquiétez pas. C'est pas sur le temps de votre émission, plus vous me donnez la parole en avance. Moi, je me dis, bon, ben, je vais l'aider.
Oui, c'est pour ça que je... Non, vous ne manquez pas de tout.
Une dame, écoutez bien, elle l'habite, elle prend un appartement juste à côté d'une église où il n'y a plus de messe.
Oui.
Okay, mais le maire, il est fou de cloches. Alors, il investit dans les clochers.
Oui,
et elle se tape, écoutez bien, 1:40 plusieurs fois par jour de cloches comme ça. Et ça part dans tous les sens. Parce qu'il en a acheté plein, des cloches venues des États-Unis, de partout. Pam, 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 pam. Et vous savez ce qu'elle fait pour éviter, parce qu'elle devient folle à cause du bruit, quand il y a les cloches, elle va mettre sa tête sous la haute aspirante qu'elle met en marche, comme ça, ça couvre le bruit. C'est un truc de malade.
Ben vous nous l'avez bien vendu, je peux vous m'aurez comme téléspectateur.
Allez, finissez, dites ce que vous aviez à dire pour conclure.
Allez, en paix, mon cher Julien, belle émission.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.